les zones humides.
Quelle valorisation possible ?
En agriculture. Une restitution radiophonique des BTS
AXE
UNG.
Bonjour à tous, nous sommes Adrien et Jérémy et bienvenue sur notre émission radio Les Zones Humides, présentée par des élèves de BTS AXE du LECTA de Civergol. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2019 et nous sommes très heureux de vous accueillir en direct et en public pour cette première radiophonique.
Nous avons créé avec notre classe et nos professeurs cette émission dans le cadre d'un travail réalisé avec le COPAGE. Durant cette étude, nous avons eu des interventions du COPAGE en salle et sur le terrain afin de travailler sur la thématique des zones humides dans l'agriculture d'aujourd'hui.
Au sommaire de notre émission, un micro-trottoir, une carte postale sonore de la Margeride, un reportage sur le terrain, de la musique, un zoom sur les zones humides, des invités en direct, mais avant tout, nous accueillons Laurie et Camille qui vont nous présenter l'association du COPAGE et le projet avec notre classe. Bonjour les filles, comment ça va ?
Bonjour, donc pour commencer notre projet sur le COPAGE, lors de la première séance, nous avons appris à définir ce qu'est une zone humide avec un jeu de rôle et un film avec l'aide d'une intervenante. À la deuxième séance, nous sommes allés avec Anne Collin sur une des parcelles du lycée où nous avons analysé le sol et la flore à l'aide d'outils. Le vendredi 18 octobre, nous sommes partis la journée visiter une exploitation porcine et bovine sur laquelle il y avait de nombreuses zones humides que l'on a étudiées. Ensuite, nous avons appris à les valoriser, trouver les atouts et les inconvénients que peuvent apporter ces zones humides.
L'association COPAGE intervient depuis 1993 sur le département de la Lozère, principalement auprès des agriculteurs et des collectivités territoriales. Ces actions concilient à la fois les intérêts agricoles et environnementaux. Elles visent le développement économique des exploitations agricoles en lien avec l'environnement et les paysages.
Donc on est en visite sur la commune de Saint-Denis à Margeride. Donc on est venu voir pour le COPAGE au niveau des zones humides. Donc le matin là on a fait deux prés, on est allé voir deux îlots de zones humides. Et là cet après-midi on va visiter une exploitation au Brac et il y a quelques cochons.
Vous êtes bien sur les ondes de Radio AXE 1. Nous accueillons maintenant sur notre plateau Sylvain et Éloi qui sont allés à la rencontre des habitants du lycée agricole de Saint-Chély-d'Apché sur un micro-trottoir sur les ondes humides. Bonjour les gars, alors comment ça s'est passé ?
Bonjour, nous sommes donc allés à la rencontre des élèves du lycée et nous leur avons demandé ce qu'était pour eux une zone humide. Il s'agit essentiellement de lycéens en bac pro agricole, donc de futurs professionnels.
On peut constater que les zones humides sont encore méconnues dans le monde agricole et qu'elles relèvent quelques appréhensions.
Les zones humides sont de bonnes ressources pour les saisons sèches, car l'herbe repousse mieux, ça fait un meilleur apport fourrager.
C'est une zone où il y a de l'eau, genre souvent ça se trouve en bas d'un champ, dans une cuvette, c'est là où il y a un amas d'eau. C'est souvent pas mécanisable.
Donc pour moi, les zones humides servent essentiellement à une bonne pousse de l'herbe, même durant l'été.
Ce qu'on appelle aussi par chez nous une mouillère ou une tourbière. Donc c'est un coin qui est relativement humide, qui retient l'eau. On en trouve généralement toute l'année. Ça peut être gorgé d'eau, voire inondé l'hiver. Et l'été, ça reste fortement humide, même en période de sécheresse.
Oui, il faudrait drainer pour pouvoir avoir une mécanisation plus présente.
On peut mieux les valoriser en améliorant la mécanisation, donc par exemple avec des drainages ou des rases.
On ne peut pas la mécaniser ou rarement, c'est trop humide, donc on risque de s'embourber. Après, un autre inconvénient au niveau des maladies, notamment au niveau des pieds des animaux, donc l'humidité peut transmettre des maladies, etc. Pour avoir des animaux bonnets avec des pieds sains, il faudrait plutôt des terrains secs. Après, on peut y trouver, lors de sécheresse, de l'herbe, plus ou moins de l'herbe, mais notamment des jonques, notamment qui poussent dedans, et un peu d'herbe qui peuvent tenir un peu des troupeaux l'été, quoi.
Merci les gars pour ce beau reportage en terre lycéenne. Nous allons donc essayer d'apporter un peu de contenu scientifique pour élever la question et nous accueillons donc en direct et en public sur notre plateau nos deux scientifiques de la classe, Audrey et Raphaël. Bonjour à vous deux.
Bonjour à tous, nous sommes Audrey Gabriargue
et Raphaël Buffier,
tous les deux en classe de BTS Axe au lectat François Rabelais à Saint-Chély-d'Apché. Nous allons vous présenter la définition des zones humides. Alors, après quelques recherches et discussions avec les animatrices du COPAGE, voici comment nous pourrions définir les zones humides. C'est une région où l'eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée, selon la définition de l'article L.211-1 du Code de l'environnement, la loi sur l'eau définit les zones humides comme les terrains exploités ou non exploités, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quant à elle, y existe, dominée par des plantes hygrophiles pendant une bonne partie de l'année.
Dans la décision rendue le 22 février 2017, le Conseil d'État affirme qu'une zone humide ne peut être caractérisée lorsque la végétation y existe que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau, et pendant au moins une partie de l'année. Les zones humides occupent une position particulière entre terre et eau parce qu'elles sont source de qualité et de diversité biologique, parce qu'elles peuvent efficacement stocker l'eau en excès et la restituer lorsqu'elle fait défaut. Les zones humides ont un rôle essentiel pour l'aménagement durable du territoire, le développement, le fonctionnement social et économique et la gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Valoriser les zones humides. Sur certains territoires de Lozère, les agriculteurs utilisent les milieux humides et ou les cours d'eau. Un cours d'eau est défini par trois critères cumulatifs: présence et permanence d'un lit naturel à l'origine, débit suffisant une majeure partie de l'année, alimentation par une source, présence d'invertébrés aquatiques, différenciation des berges et du fond du lit. Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à l'écoulement des eaux, répondant à des intérêts privés, comme par exemple drainer des parcelles agricoles pour améliorer les usages des sols, ou collectifs, par exemple évacuer des eaux de ruissellement présentes sur les routes, chemins, pour la sécurité des usagers.
L'entretien régulier des cours d'eau. L'entretien régulier revient à accompagner le fonctionnement naturel du cours d'eau en réalisant les travaux ciblés et limités au strict nécessaire afin de permettre l'écoulement naturel de l'eau. Il s'agit d'actions légères, ponctuelles et localisées comme l'enlèvement d'embâcles ou de débris, l'élevage et le réceptage de la végétation des rives. Mais pour définir les zones humides, rien ne vaut la parole d'une professionnelle.
Oui, bonjour, je m'appelle Anne Collin, je travaille au COPAGE. Le COPAGE, c'est une association qui fait de l'agri-environnement en Lozère. Alors, la zone humide, elle est caractérisée par deux critères principaux. Pour pouvoir reconnaître une zone humide, on regarde la flore et le sol. Alors, sur la Margeride, on a une densité de zone humide assez importante qui est liée à la présence de la roche granitique qui est imperméable et donc qui ne laisse pas passer l'eau en profondeur. Donc on a beaucoup d'eau qui reste en surface et qui favorise la présence des zones humides. Et donc il y a une flore particulière qui se développe sur ces sols liée à la présence d'eau. Nous sommes du coup à Saint-Denis-en-Margeride sur une exploitation qui est basée à la fois ici et à Grand-Rieu. Et en fait, les deux exploitations sont assez intéressantes du point de vue des zones humides. Et notamment, en fait, l'éleveur qui nous reçoit aujourd'hui avait des questions sur deux parcelles distinctes que nous avons vues ce matin.
Merci beaucoup pour ces données qui nous permettent maintenant de mieux cerner le problème. Vous nous avez parlé de Lozère et nous accueillons maintenant deux spécialistes de ce magnifique département pour nous parler d'une région particulière de la Lozère, la Margeride. Bonjour Anthony et Baptiste.
Bonjour à vous et bonjour à notre public.
La Margeride est une région montagneuse de France située dans le Massif central, aux limites des départements du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère. La limite occidentale avec les monts du Cantal et de l'Aubrac peut être placée sur la Truyère. La limite orientale est matérialisée par les gorges de l'Allier et le massif du Devès.
Au sud, c'est la vallée du Lot qui sépare la Margeride du mont Lozère, puis la région des Grands Causses. Le point culminant est le truc de Fortunio, à 1552 mètres.
La ligne de partage des eaux, qui sépare le bassin de la Garonne et le bassin de la Loire, traverse la Margeride. Les affluents de l'Allier et de l'Alagnon appartiennent au bassin de la Loire. Les affluents de la Truyère et du Lot appartiennent à celui de la Garonne.
Le climat est relativement sec. Les monts du Cantal et de l'Aubrac arrêtent les précipitations venant de l'ouest et permettent à la marge ride de bénéficier d'une position relativement abritée. Par ailleurs, le sud du massif reçoit à intervalles réguliers de fortes précipitations venant de Méditerranée, en particulier lors des épisodes cévenols.
Le sud de l'Aubrac subit d'ailleurs le même phénomène. Si cet événement a lieu en hiver, il tombe alors des quantités importantes de neige, comme en 1978 dans la région de Langogne, où l'on releva une hauteur de 2 mètres. Cependant, les quantités d'eau ou de neige recueillies sont généralement moins importantes que dans les Cévennes, qui sont concernées au premier chef lors d'événements de ce type.
L'exploitation est située sur la commune Saint-Denis-en-Margeride, à une altitude de 1160 mètres, en zone moyenne montagne. La pluviométrie annuelle est aux alentours de 1500 mm.
Merci à vous, messieurs, pour cette petite carte postale sonore qui permettra à nos auditeurs parisiens de mieux cerner la beauté et la spécificité de la marge ride. Qui dit eau dit mer, on se retrouve juste après cette première pause musicale sur les ondes de Radio Axe.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un mordi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau, c'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Cavardi, Pajot, Kersauzon et Ridel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de retour.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me donne un rond de lapin.
De retour en direct et en public, nous poursuivons notre enquête agricole sur les zones humides. Comme nous l'ont expliqué dans la première partie d'émission, Laurie et Camille, nous avons eu la chance de partir sur le terrain à Saint-Denis-en-Margeride pour rencontrer un agriculteur qui s'intéressait aux zones humides. Bonjour Antoine et Nicolas et bienvenue. Vous allez donc nous parler de l'exploitation de M. Parère et également des zones Natura 2000 étroitement liées à notre problématique du jour.
Bonjour, oui, tout à fait. La ferme des Hauts-Plateaux est située sur deux sites, à Saint-Denis-en-Margeride et à Grand-Rieu, et compte une centaine d'hectares, dont 7 hectares de zones humides, avec deux productions, un élevage bovin en veau sous la mer, avec une trentaine de mères, et d'un élevage porcin de 300 porcs par an. La totalité des porcs est vendue en vente directe, et également 50% des veaux. Au niveau des cultures, les associés du GAEC cultivent du seigle et un test de petite épeautre. Et pour la production fourragère, il cultive du dactyle. Monsieur Pareire fait les marchés de Pont-Saint-Esprit dans le Gard et de Haumont et de Saint-Alban.
La zone Natura 2000 s'appelle Montagne de la Margeride. Cette zone se situe en moyenne à 1200 mètres d'altitude, ce qui est relativement élevé et favorise donc la présence de zones humides. Cette zone fait environ 9400 hectares répartis sur 7 communes. L'objectif de Natura 2000 est de préserver les habitats et les espèces endémiques, comme sur cette zone des boulonnins et des loutres. Ce site Natura 2000 est axé également sur les habitats. Vous allez maintenant écouter un reportage effectué sur le terrain.
Et c'est des parcelles sur lesquelles on fait de l'herbe qui ne coûte pas cher. Parce que tout ce qu'on fait, c'est chauler quand on peut. Et après, de l'herbe, c'est mousseuse.
Vous les entretenez avec des rases?
Oui, des rases maximum quand le temps le permet. Parce qu'ici, il y a des tourbières et le sol ne porte pas. C'est la parcelle qu'on fauche en premier. Donc, 15 mai, cette année, on a pris du retard parce qu'il y avait du retard pour tout le monde. Avec des gelées, ici, la gelée au printemps, donc ça nous a bien retardé. Et par contre, on la rubane 100%, on ne fait pas de foin là-dessus. Quand on y met les bêtes, après, on y met à peu près 8 vaches. Et on les y laisse 15 jours. On est obligé d'y aller avec du petit matériel. Enfin, c'est délicat. Et les vaches, elles en laissent tout le temps. Là où c'est plus compliqué à gérer. Parce que les rases, le problème, ce serait d'arriver à entretenir les rases. Et pour pouvoir entretenir les rases, il faut arriver à y passer, au moins y aller à la même, mais bon, il faut avoir le temps.
Est-ce que vous pouvez leur expliquer l'historique de cette partie?
Alors, moi j'ai repris la propriété d'un exploitant agricole à titre secondaire. Il l'a fauché et fait pâturer pendant une trentaine d'années. Tout le fond, hein, tout ce que vous avez vu, même... les tertres, tout. Et donc moi, j'en ai fait un pâturage parce que je pouvais pas me permettre d'aller faucher ce genre de parcelle. Après, bon, il y en a qui le faucheraient, mais c'est compliqué et puis ça peut vite coûter cher. En matériel, partie haute, parcelle qui fait aucun rendement, quoi. Hein. On le fauche pour pas que ça vaut vraiment pas le coup. Et donc là, on a le droit de le cultiver et de le passer en céréales. Et on va passer sur un seigle. Sur la partie haute, pas sur la partie humide. Là, vous avez l'exemple typique de la parcelle de Margeride. Le haut, où il n'y a rien, sec, un sol pauvre et le fond, humide.
Merci messieurs pour ce reportage. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Axe, au lycée agricole de Saint-Chély-d'Apché, en Lozère. Nous sommes en direct et en public et nous accueillons maintenant du beau monde sur ce plateau. Marie et Florian, deux étudiants de notre classe, qui ont interviewé aujourd'hui Anne Collin, salariée de l'association du Copage. Bonjour à vous.
Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien. Avant de commencer cette interview, en rapport avec les zones humides, pouvez-vous vous présenter brièvement?
Alors, je suis Anne Collin, je suis chargée de mission agré-environnement à l'association Copage. Et je travaille principalement sur la gestion des parcelles humides, mais également sur d'autres programmes relatifs à la gestion des prairies de façon générale, et aussi sur la flore et les haies.
Alors d'accord, depuis combien de temps vous vous connaissez avec M. Parère, et également depuis combien de temps travaillez-vous ensemble?
Alors M. Parère, on l'avait contacté au départ pour des visites de ferme, qu'une de mes collègues a réalisé l'été dernier sur un programme qui s'appelle « Visite au cœur des fermes ». Et du coup, en discutant avec lui, il s'est avéré qu'il avait des questions intéressantes de valorisation de ces parcelles humides. Et donc, on lui a tout de suite proposé de participer du coup, à ce projet avec le lycée. Et à savoir que derrière, lui, ce qui l'intéressait aussi, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur l'avenir de ces parcelles.
Madame Collin, vous avez réalisé des diagnostics sur les parcelles humides de Monsieur Parer. Pouvez-vous en faire un bilan ?
Alors, comme ça a déjà été dit, il y a deux parcelles totalement différentes qui ont été étudiées. Donc, une qui aujourd'hui est gérée en pâturage, donc avec un lot de génisses, du coup, qui viennent de Grand-Rieu, et qui est d'un seul tenant aujourd'hui avec un pré de fauche sec. Donc, c'est une parcelle qui est aujourd'hui très peu utilisée, puisque, en fait, il y a beaucoup de parcelles et un tout petit lot de vaches qui tournent beaucoup pendant l'été. Donc c'est plutôt une parcelle qui aussi du point de vue de Monsieur Parer est intéressante aujourd'hui du fait de la biodiversité et de ses fonctionnalités liées aux zones humides. La deuxième parcelle, elle, est un pré de fauche qui est perçu plutôt comme une bonne parcelle et qui est fauchée très tôt et donc pour du foin qui est donné aux laitières, enfin aux mères.
Et pouvez-vous nous dire les avantages et les inconvénients de gérer les zones humides pour l'agriculteur ?
Alors, les principaux inconvénients de gestion des zones humides, c'est le manque de portance du sol et la présence d'un engorgement en eau une bonne partie de l'année, notamment les années pluvieuses. Du coup, ça implique de vraiment faire attention, de ne pas tasser le sol, de ne pas faire de surpiétinement par rapport à la présence des animaux. Donc c'est plutôt être vigilant sur les dates d'utilisation de ces parcelles qui peuvent paraître par ailleurs très complémentaires par rapport aux zones sèches qui souffrent beaucoup des années de sécheresse alors que les parcelles humides, elles, garantissent toujours de l'herbe fraîche même en été.
Comment la vision de M. Parer a-t-elle évolué suite à votre travail ?
Eh bien c'est quand même assez récent qu'on travaille avec lui, mais donc je ne peux pas vraiment dire aujourd'hui qu'il y a eu d'évolution, mais... Voilà, je pense qu'on continuera à travailler avec lui dans tous les cas par la suite.
Bon, d'accord, nous accueillons également Elsa, qui est élève en 3e, qui fait un stage au sein de l'association du Copage. Donc Elsa, qu'avez-vous découvert pendant ce stage ?
Ben, du coup, pendant mon stage au Copage, j'ai vu toutes les missions qu'ils pouvaient mener durant leur... toutes les missions qu'ils pouvaient mener. Donc, je suis allée à une réunion où ils parlaient du projet AEOL. C'est un projet sur les zones humides, donc chez les agriculteurs. Je suis aussi allée à une autre réunion sur des réseaux d'abreuvement pour les bêtes, du coup, sur le Mont-Lozère. Et j'ai pu découvrir tout ce qu'ils pouvaient faire dans le milieu du copage et toutes les missions qu'ils pouvaient mener à travers les agriculteurs et l'environnement.
D'accord, ça vous a plu ?
Oui. Ah.
Merci à tous pour ces précisions très éclairantes. On peut voir à travers les expériences que les zones humides peuvent être valorisées économiquement et écologiquement. Nous en reparlerons pour le bilan avec Amy et Emma, juste après la deuxième pause musicale, la nouveauté de Dance Monkey.
One more time. Ooh, I say, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back to do be that again. They say, dance for me,
Après cette petite pause musicale, nous allons donc écouter le bilan de Emma et Amy.
Bonjour. Donc, pendant plusieurs années, les zones humides étaient perçues comme un inconvénient dans le monde agricole. Mais au jour d'aujourd'hui, plusieurs associations se sont créées pour pouvoir aider les agriculteurs à gérer ces zones, comme par exemple le copage. Finalement, celles-ci ne présentent pas que des contraintes, car en utilisant les bonnes méthodes, elles peuvent se présenter comme un avantage économique mais aussi environnemental.
Pour que cela soit possible, l'agriculteur doit bien entretenir ses parcelles, limiter le nombre d'animaux dans celles-ci et donc éviter le piétinement. Ensuite, il lui est interdit d'apporter des produits polluants pour ne pas contaminer l'eau et donc la nature. Ainsi, l'agriculteur pourra percevoir un avantage majeur, une meilleure quantité de fourrage.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Nous tenons à remercier M. Parer qui nous a reçus sur son exploitation le 18 octobre dernier.
Nous remercions également toute l'équipe du Copage, et en particulier Mme Anne Collin et Nina Cambé, et nos professeurs qui nous ont accompagnés sur ce projet. Et bien sûr, nous vous remercions pour votre écoute et votre attention. Bonne fin de journée et à bientôt sur nos ondes.